tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 décembre, nouvelle émission pour une nouvelle semaine où on va parler aujourd'hui, on va revenir sur ce week-end du Téléthon avec notamment des animations organisées dans le village d'Aurigné. Vous le verrez, tous les habitants ou presque étaient présents ce week-end pour cette fête aussi dans un but caritatif. On va parler aussi évidemment du festival du film judiciaire à Laval qui revient pour une 12e édition. Il revient donc d'ici quelques jours, ça va commencer jeudi et se poursuivre jusqu'à samedi à Laval et donc au Bourgneuf-la-Forêt, si je dis pas de bêtises, au cinéma Le Trianon. Et puis en fin d'émission, bien sûr, on va retrouver comme tous les lundis notre chronique littéraire avec la librairie Emmirangeau et aussi un nouveau feuilleton avec la compagnie de théâtre Les Deux Rives, la plus ancienne compagnie de théâtre de Château-Gontier. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité et ça y est, on connaît les premiers noms des trois éléphants. Le festival de musique revient à Laval du 18 au 22 mai 2022 pour une 25e édition avec le rappeur Laylo, rare sur scène et pourtant présent pour le festival, mais aussi la chanteuse canadienne Lazara, connue pour son titre « Tu t'en iras ». Seront aussi présents l'artiste d'électro Ento, Malik Judy ou encore les Mayennais du duo Rookin. Au total, 12 artistes programmés pour ce retour des trois éléphants en mode plus classique par rapport à l'an dernier, avec de nouveaux lieux investis, notamment une nouvelle scène dans le jardin de la Périne. Ouverture de la billetterie dès ce soir sur le site lestroiséléphants.com. Comptez 32 euros par soir ou 52 euros le pass de jour. Les Mayennais étaient en tête de manifestation à Paris samedi pour la défense de l'hôpital public. Ils étaient plus de 200 citoyens, élus et responsables syndicaux lors de la mobilisation qui a réuni plusieurs milliers de participants au total. Les élus Mayennais et l'association d'usagers Audace 53 ont été reçus par un conseiller technique du ministre de la Santé sans engagement concret sur la pérennité de l'hôpital de Mayenne dont les services de chirurgie et de soins continus sont menacés de transfert à Laval. Et d'ailleurs, en même temps, ce samedi, ils étaient 300 à manifester devant l'hôpital Lavallois avec les mêmes revendications. 27 élus mayennais créent un comité de soutien à Emmanuel Macron à l'initiative de Christophe Langouette, maire et conseiller départemental de Caussée-le-Vivien, et Vincent D'Agostino, conseiller municipal à Laval et conseiller communautaire à Laval Agglomération. Le comité se dit apartisan et veut, je cite, « dépasser les clivages traditionnels pour soutenir la transformation du pays engagée depuis 2017 ». Deux personnes décédées dans un accident de la route à Saint-Pierre-la-Cour, accident qui a eu lieu hier vers 9h sur la départementale 163. La voiture a fait une chute de 5 mètres au bord de la route de Bréal, en face des établissements Lafarge. À son bord, un homme de 76 ans décédé sur le coup et une femme de 78 ans qui est décédée des suites de ses blessures. Le stationnement perturbé en centre-ville de Laval à cause de l'installation du marché de Noël sur la place du 11 novembre, qui aura lieu donc du 10 au 12 décembre et du 17 au 19 décembre. Stationnement interdit donc sur les parkings de l'hôtel de ville à partir de ce matin et donc jusqu'au 22 décembre à 18h. 92 000 euros, c'est la somme récoltée ce week-end pour la 35e édition du Téléthon en Mayenne via les dons internet et par téléphone. C'est au moins deux fois plus que l'an passé, sans compter ceux des différentes manifestations organisées un peu partout les départements. Ces dons-là, justement, on va parler du village d'Aurigné où avait lieu toute la journée différentes animations et notamment on s'est affairé en cuisine avec le restaurant Le Bayel et de nombreux bénévoles du village mobilisés pour l'occasion.
Gilles Boetti, habitant d'Aurigné. Je suis le mari de Martine, qui est la référente Téléthon sur Aurigné. Alors là, on doit être une vingtaine. Village Lumière, cette année, la FM Téléthon a proposé au village dont l'initial faisait partie du mot Téléthon, et nous, Aurigné Téléthon, de faire une mise en lumière un peu particulière, une combinaison du mot Téléthon et Aurigné. Le mot Téléthon, avec le O qui englobe le Téléthon dans une grande roue qui fait un peu plus d'un mètre cinquante de diamètre, et derrière, écrit en fil de fer suffisamment gros pour que tout le monde voit, Aurigné. Je crois que c'est une cause nationale. À Aurigné, avec son maire Christophe Lemarié, on est très participatif ici, avec beaucoup de bénévoles. Mais là, cette fois-ci, on se tourne un peu vers l'extérieur, hein, vers les enfants et adultes. Et je trouve que ça donne beaucoup de sens à l'action communale, quoi.
Odile Cadeau, bénévole de Téléthon, pour la journée aujourd'hui qui représente tout ça. Donc on est à fond. Ah, depuis ce matin, 8h30, on est au taquet. Là, on fait des éclairs. Donc on fait évidemment la pâte à choux, la crème pâtissière. On a fait du caramel qui va avec la crème pâtissière. On a déjà fait les choux en 2019, et là c'était une belle aventure, et je crois que là on est parti aussi pour une belle aventure. Moi c'est ma deuxième année, et je pense que je vais continuer, parce que franchement c'est une belle aventure. Ce côté convivial, où l'intergénérationnel aussi, parce que vous voyez, on a des jeunes qui sont là, on a des plus anciens, c'est fabuleux, moi j'adore. C'est mon truc, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, une bonne entente, et on est tous, le partage, voilà. Et on est tous pour la même cause, et ben voilà, c'est bien.
Je m'appelle Noah Mazur, j'ai 14 ans et j'habite à Aurigny. Déjà, ça valorise parce qu'on sait qu'on aide une association caritative derrière. Et en plus, ça fait plaisir de pouvoir aider en faisant de la cuisine, ce qui est pour moi une chose que j'aime bien faire régulièrement. Et donc, ça m'aide et puis je suis content de faire ça.
Thomas Crépeau, cuisinier au BIL à Aurigny. C'est ça, il y a un peu de monde partout. On fait un énorme atelier cuisine, en fait. On fait 400 éclairs. On va produire 100 litres de soupe et 1500 biscuits apéro. Donc, il y a beaucoup de bénévoles qui sont arrivés. Et on utilise donc la cuisine du restaurant village, la cuisine du restaurant à l'écluse. Et on va aussi utiliser la cuisine de la salle des fêtes. Donc, trois sites de production. On travaille avec pas mal de produits locaux. Donc, du coup, qui nous prêtent aussi, qui nous donnent surtout de la matière première. Donc c'est un moyen aussi de faire du bénéfice, parce que c'est quand même le but du Téléthon. On passe un bon moment, mais surtout on fait du bénéfice. Et puis l'idée d'une soupe est venue, comme on est village flash à Aurigny, en fait, il va y avoir un concours de soupe entre les villages, donc c'est parti comme ça. Et puis voilà, moi je trouve que c'est la moindre des choses de participer, de faire cette action-là pour le Téléthon, entre guillemets. C'est dans mes compétences, c'est de la cuisine, c'est ce que je sais faire, donc c'est facile d'aider de cette manière-là, en fait.
Et en plus de la cuisine, était aussi organisée une randonnée VTT, des champs avec des jeunes et des moins jeunes, et donc ce fameux concours de soupe. Vous pouvez toujours donner pour le Téléthon jusqu'à vendredi en appelant le 3637 ou bien sûr en ligne sur don.téléthon.fr. On va parler du Festival du film judiciaire de Laval juste après avoir écouté Bruce Springsteen avec Letter to You.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Shining rain,
happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter.
Toujours à l'écoute de l'autre radio sur, évidemment, on vient d'écouter donc Bruce Springsteen, Letter to You. Et on va passer à l'interview, grande interview consacrée aujourd'hui au Festival du film judiciaire de Laval qui fait son grand retour cette semaine après malheureusement une annulation l'an passé. Elle va avoir lieu donc ce jeudi 9 et vendredi 10 décembre au Cinéville de Laval et même le samedi 11 au Bourgneuf-la-Forêt au cinéma Le Trianon. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Noélie Niel, donc chargée de coordination d'Atmosphère 53, et Sabine Orcel, la présidente du tribunal de Laval. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Donc on va justement peut-être préciser, donc là on est vraiment sur l'édition reportée de l'année 2020, donc ceux qui attendaient avec impatience l'édition 2020 vont être encore très contents de retrouver ces films sur cette édition-là, Noélie Niel.
Exactement, oui, l'idée c'était de conserver toute la programmation puisqu'elle était très, très appréciée par le comité de programmation, parce qu'il faut savoir que c'est pas que Atmosphère 53 qui organise cette édition. On est accompagné bien sûr du tribunal judiciaire de Laval, mais aussi de la fac de droit de Laval, l'antenne du Mans. Et donc voilà, je pense que cette programmation faisait l'unanimité, donc on a tenu à la conserver autant pour les séances publiques que pour les séances scolaires, en effet.
Donc vraiment les mêmes quatre films à chaque fois, aussi bien pour le grand public que pour les scolaires. Il y avait aussi une cohérence, j'imagine, dans cette programmation, et c'était difficile de rajouter d'autres films.
Oui, parce qu'en fait, l'idée chaque année, c'est d'avoir des films qui couvrent des thèmes tout à fait différents par rapport à la justice. Et là, cette programmation, c'était le cas, puisqu'elle aborde autant le droit du travail que le droit de l'environnement, que le procès d'assises et bien d'autres thèmes encore. Oui.
Et donc, vous le disiez, c'est un festival qui est donc piloté par Atmosphère 53, mais avec plein d'autres partenaires, évidemment. On retrouve donc évidemment le tribunal judiciaire, donc vous êtes la présidente, Sabine Orcel, aussi l'Ordre des avocats, le Conseil départemental d'accès au droit, la faculté de droit aussi, qui a été... Alors, si on revient même aux origines, ça a été vraiment tout de suite une coordination entre les deux. Comment ça s'est fait
Alors, en fait, historiquement, le festival, qui a été quasiment le premier en France, hein. Maintenant, il y a des festivals du film judiciaire un peu partout, mais en réalité, c'est le CDAD de la Mayenne qui a initié, quand il était présidé par un de mes prédécesseurs, président du tribunal de grande instance à l'époque, qui, d'après ce que j'ai compris, était passionné de cinéma, et c'est lui qui avait porté un peu ce projet au départ avec le CDAD, et puis qui a pu trouver avec Atmosphère un partenaire qui était à même, techniquement et du point de vue des compétences, capable de porter avec le CDAD, puis en partenaire principal ce festival. Mais donc au départ, ça vient du Conseil départemental d'accès au droit, avec l'idée que par le cinéma, C'est un vecteur supplémentaire dans l'action du CDAD, un vecteur supplémentaire pour faire découvrir à toutes les catégories d'âge, à toutes les catégories socio-professionnelles, différents aspects du droit, s'interroger sur les droits qu'ils ont, parfois aussi les devoirs qu'ils ont, comment les exercer. Et c'est un peu toute cette panoplie que les films qu'on présente explorent. C'est aussi pour ça que depuis 2-3 ans, on a renoncé à avoir un thème pour chaque festival.
Ah oui, avant il y avait un fil rouge,
voilà,
en fait.
Pour justement pas s'enfermer dans une problématique en particulier, pas se priver de certains films parce qu'ils auraient été en dehors du thème cette année-là. Et donc c'est vraiment toute une palette très très variée qu'on essaie d'explorer en essayant de... On a des choses qui sont en rapport avec le droit pénal, hein. La fille au bracelet cette année, c'est un procès d'assises qui y est raconté notamment, mais on essaye vraiment d'explorer des pans du droit qui sont pas toujours bien connus du grand public.
Effectivement, faut pas s'imaginer en tout cas que des films avec des comptes rendus de procès, et c'est pas du tout l'idée. Ça se voit déjà avec le premier film qui se rapprochait, Dark Waters, où là justement on parle d'une branche du droit environnemental. Ça aussi, c'est, alors à chaque fois c'est des choix, est-ce que c'est des choix du CDAD, d'Atmosphère 53 ou un peu des deux? J'imagine que c'est des films qui ont eu l'unanimité aussi.
Tout à fait. Oui, parce que l'expertise d'Atmosphère 53, c'est que le film soit qualitatif. Donc à chaque fois, nous, on propose des films comme ça qu'on considère être des bons films et aussi accessibles au plus grand public. Et ensuite, c'est validé par le reste du comité de pilotage pour voir s'il y a un véritable intérêt juridique derrière ce film. Et en l'occurrence, Dark Waters, voilà, c'est un scandale environnemental qui se passe... Bon, dans ce cas-là, aux États-Unis, mais il faut savoir que ça peut arriver partout. Et je pense que c'était aussi l'intérêt de ce film, et c'est pour ça qu'il sera accompagné d'ailleurs de personnalités, enfin d'une professeure de droit à l'Université du Mans, et aussi d'une juriste environnement qui travaille, elle, sur les scandales qui touchent l'eau en particulier, et sur tous les pays de la Loire. Hein.
D'accord, donc l'idée c'est aussi de pouvoir raccrocher ça, vous le disiez, donc un film américain, raccrocher ça aussi au local. C'est vrai que le droit environnemental, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense au droit en général. C'était bien aussi qu'il soit représenté dans cette programmation, et Sabine Orcel.
Oui, c'était important parce que je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est quand même un enjeu majeur, hein. On sait que, par exemple, en France, les associations qui luttent contre la dégradation du climat, etc., ont porté devant le Conseil d'État l'affaire du siècle. Donc, la question de judiciarisation, d'utiliser le droit pour faire valoir un certain nombre de choses et faire bouger les politiques publiques, elle n'est pas nouvelle. Hein, c'est une part vraiment importante du droit et du futur du droit, sans doute. Ça vous surprendra peut-être, mais moi, en correctionnel, je juge régulièrement des... Alors, c'est pas de l'ampleur, évidemment, de ce qu'on voit dans le film, mais voilà, des pollutions, notamment dans des cours d'eau, parce qu'il y a eu une imprudence au moment de pulvériser certains produits, etc. Et donc, on juge aussi du droit de l'environnement au tribunal de Laval, à la mesure de ce qui se passe dans le département, évidemment, mais c'est une branche active du droit.
Donc cette branche active qui sera aussi représentée donc avec ce film Dark Waters. Ce film qui sera suivi d'un autre film, là aussi on parlait de la diversité de la programmation, elle se retrouve là aussi. Un autre film, Made in Bangladesh, où là on part aussi ailleurs, pas forcément aux États-Unis, mais en l'occurrence au Bangladesh, c'est inscrit dans le titre, sur vraiment les conditions de ces ouvrières, en tout cas du textile. Là aussi, c'était un thème qui était choisi, c'est ça l'idée. Donc on est quand même sur une fiction, Noé Lignel.
Oui, tout à fait. Alors une fiction qui est d'ailleurs inspirée d'une histoire vraie, parce qu'en vérité, la réalisatrice a rencontré la personne qui a souhaité monter un syndicat justement dans son usine de textile, parce qu'on le sait, les vêtements qu'on achète aujourd'hui à moindre coût sont aussi fabriqués à des coûts très bas, et ça se répercute notamment sur le salaire des ouvrières, puisque c'est quand même des métiers qui sont majoritairement pratiqués par des femmes. Et donc là, c'est l'histoire vraie, même si elle est romancée, de cette ouvrière dans une usine de textile qui a souhaité... Enfin, qui n'était plus d'accord avec ça et qui a souhaité monter un syndicat pour se battre pour ses droits, en fait, en tant que salarié de cette usine.
Donc là, on parle droit du travail aussi à l'étranger. C'est aussi pour nous faire peut-être prendre conscience aussi de quand on achète un vêtement, c'est pas un acte anodin.
Tout à fait.
Oui, Sabine Norcelle, je vous voyais avoir envie de réagir.
C'est mon chouchou, ce film-là. C'est moi qui ai poussé pour qu'on le programme. Donc voilà, je suis vraiment contente qu'on puisse le montrer finalement. D'abord parce que c'est une diversité d'origine aussi des films qu'on montre. Cette année, on est presque un peu beaucoup plus occidentaux que l'année précédente où on avait des films quasiment de chaque continent. Donc vraiment, je trouve c'est formidable qu'on ait ce film du Bangladesh. Et puis en effet, c'est un film qui pose deux pans du droit finalement. Le droit du travail, effectivement, et voilà, l'action collective, comment l'action collective peut faire évoluer le droit, comment on peut faire valoir ses droits par l'action collective, et donc le syndicalisme. Pourquoi le syndicalisme est si difficile à instaurer? C'est parce que ça coupe un peu du profit, hein, parce que quand il y a un syndicat qui parvient à obtenir de meilleurs salaires, des horaires différents, etc., évidemment, le coût de production augmente. C'est pour ça que quand on achète un vêtement qui est produit au Bangladesh à bas prix, c'est pas inutile d'avoir conscience. Après, on fait le choix qu'on veut, hein, mais il faut avoir conscience que les bas prix sont obtenus en faisant travailler des enfants, en faisant travailler des gens pendant des durées beaucoup plus importantes qu'en France et en étant payés évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'on ne le serait en France. Donc il y a cet aspect droit syndical, mais il y a aussi le fait que ce sont des femmes qui, dans une société qui est peut-être... où la question du droit des femmes se pose peut-être avec encore plus d'acuité qu'elle ne peut se poser dans nos pays occidentaux. Voilà, ce sont des femmes qui prennent en charge ce syndicat, qui se mobilisent et qui défendent leurs droits. Et je trouve ça toujours intéressant.
Donc on voit différents aspects en un film, tout ça évoqué. Ce sera aussi poursuivi par une discussion, un débat avec plusieurs invités, si vous pouvez nous les présenter.
Oui, alors ils seront deux. Il y aura Maître Pascal Landais, qui est avocat en procédure civile, droit du travail et droit social, et Alain Voisin, de la section Laval-Mayenne de la Ligue des droits de l'homme, Ligue des droits de l'homme qui intervient d'ailleurs assez souvent sur des films.
Donc ça, ce sera effectivement le programme de la première soirée du festival le jeudi 9 décembre. Donc je précise 9 décembre, en fait jeudi de cette semaine, hein, c'est tout proche. Et puis le lendemain, le vendredi, là on retrouvera le film dont vous avez parlé, Sabine Norcelle, La fille au bracelet. Là peut-être un film, entre guillemets, plus classique sur comment se passe un procès d'assises. Et en l'occurrence, là c'est l'histoire vraiment d'une personne accusée de meurtre qu'elle n'a potentiellement pas commis. C'est ça ?
Tout à fait, exactement. Oui, c'est un film de procès, mais comment dire, dont on n'a pas la réponse. Et je crois même qu'en fait le réalisateur a tenu à ce que l'équipe du film ne sache pas si la personne était coupable ou non, en fait.
Oui, donc ça a été important aussi dans la réalisation.
Tout à fait. Oui, oui, oui.
Ça s'est retrouvé aussi. C'était important aussi qu'il y ait dans cette programmation, Sabine Norcelle, un film peut-être plus classique, vraiment sur comment fonctionne un procès et les dessous.
Alors les films de procès, il n'y en a pas tant que ça finalement. Il y a beaucoup de films où il y a des scènes de procès, mais un film qui est centré autour d'un procès, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas tous les jours qu'on a 12 hommes en colère non plus. Donc ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a à la fois les scènes de procès, il y a effectivement un mystère qui plane sur cette jeune fille. Alors il y a une solution judiciaire à la fin, il y a une décision qui est prise par la cour d'assises, mais c'est une vérité judiciaire et chacun peut s'interroger sur la vérité de cette jeune fille. Et c'est là que reste ce mystère. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le film, c'est la question des points de vue, en fait. Parce que quand vous siégez aux assises, moi ça m'est arrivé un certain nombre de fois, vous êtes dans une certaine position dans la salle d'assises, tout vous est amené, vous entendez les témoins qui sont tous en face de vous. Voilà. Quand vous êtes dans la salle, vous avez un point de vue tout à fait différent. Parce que vous avez les gens de dos, vous n'entendez pas forcément très bien, etc. Quand vous êtes dans le box des accusés, vous avez encore un autre positionnement dans la salle d'audience. Et quand vous êtes spectateur de ce film, vous avez encore autre chose, c'est que vous avez d'autres informations. C'est-à-dire qu'on ne voit dans le film du procès que ce que le réalisateur a voulu en montrer, mais on voit aussi des scènes un peu de la vie familiale de cette jeune fille, en dehors du procès, qui apportent des éléments ou qui sème des éléments de doute ou d'interrogations supplémentaires peut-être, ou des débuts de réponse sur ce mystère qui plane autour de sa culpabilité ou pas. Donc on est avec ce film dans une position, je trouve, qui est très intéressante. J'espère qu'on pourra l'aborder dans les interventions autour du film. C'est de quelles informations on dispose quand on juge finalement ? voilà, le cinéaste a un point de vue qui donne en distillant les informations qu'il veut donner, mais comme dans n'importe quel roman d'Agatha Christie où elle place exactement à l'endroit où elle veut l'indice qui permettra de comprendre plus tard, etc. Donc on est encore une fois à chaque fois dans la question du point de vue où on est placé pour juger les gens.
Effectivement, cette notion de point de vue, donc qui se retrouve, de ce que j'ai compris, même dès la réalisation, et qu'on retrouve en tant que spectateur en pouvant voir ce film. Ce film qui sera donc projeté à 18h au Cinéville de Laval, mais aussi le lendemain, le samedi, à 20h30 au cinéma Le Trianon, au Bourgneuf-la-Forêt, avec pas forcément les mêmes intervenants d'ailleurs. Vous serez présente.
Non, mais c'est ça qui sera pareil, on aura des points de vue différents. Le vendredi soir, c'est une présidente d'assises très expérimentée, Madame Touzeau, qui est présidente de chambre à la Cour d'appel d'Angers, qui présentera le film accompagné du bâtonnier Maître Dirix. Donc on aura le point de vue d'une présidente d'assises et d'un avocat. Pour la séance scolaire, c'est Maître Dirix qui s'y colle aussi, mais avec aussi la procureure de la République. Donc là, en plus, le point de vue et l'expérience de quelqu'un qui a porté l'accusation dans de nombreux dossiers d'assises, donc qui aussi a encore une autre place. Et le samedi au Bourgneuf, ce sera moi, donc moi qui ai siégé, pas comme président, mais comme assesseur souvent aux assises, avec, et je trouve que c'est ça aussi l'originalité pour le samedi soir, Nicolas Thévenin, qui est critique de cinéma et qui, là, pour le coup, aura un regard de décryptage plus de l'image et du cinéma et qui fait souvent des interventions vraiment hyper pertinentes pour Atmosphère 53. Donc moi je me régale à l'avance d'être là quand il va en parler du film. Donc vraiment, je pense que ça va être vraiment bien.
L'idée, c'est voilà, d'avoir en tout cas ces deux regards croisés, voire même ces multiples regards croisés sur ce film. Et puis quatrième et dernier film, en tout cas grand public, proposé lors de ce festival. Là, on est pour le coup sur un vrai documentaire qui nous plonge au cœur d'une prison, de la prison des Baumettes à Marseille, c'est ça ?
Exactement, oui, la fameuse prison des Baumettes dont on entend souvent parler. C'est le seul documentaire de la programmation et en même temps, comme vous l'avez dit, c'est un documentaire vraiment tout public qui est ouais, voilà, une véritable immersion dans la prison puisque tout est filmé, il n'y a pas le filtre de la fiction. Et ce documentaire sera accompagné d'ailleurs de quelqu'un qui connaît lui aussi les prisons puisqu'il sera accompagné de Fabrice Moriot qui est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc plutôt pour les mineurs mais qui connaît quand même forcément le milieu pénitentiaire.
Milieu pénitentiaire qui est montré, j'ai l'impression là, le plus simplement possible, en tout cas le plus réaliste. Après, on ne peut pas toujours tout montrer. L'objectivité, c'est aussi un débat en journalisme aussi. Mais en tout cas, cette volonté de neutralité dans ce documentaire et de qu'on puisse imaginer en fait ce que c'est qu'être en prison et que la vie en prison.
Oui, bah d'ailleurs, le film s'appelle Des hommes, hein, pas des prisonniers ou des délinquants ou des gens pas bien ou je sais pas. C'est des hommes en prison, aussi bien d'ailleurs les détenus que les surveillants. Alors évidemment là aussi à des places complètement différentes vivent aux Baumettes. Alors il y en a qui en ressortent le soir mais ils partagent cet espace, ils sont parfois dans des rapports de force. La prison, c'est un environnement tout à fait spécial. Hein. Les sons sont pas les mêmes, les odeurs sont pas les mêmes, le temps n'y passe pas de la même façon. Alors, je pense que tout le monde a vécu l'année dernière avec l'expérience du confinement une petite idée de ce que c'est d'être dans un endroit clos, en disant déjà, je pense que tout le monde a réalisé que c'est pas forcément facile et que même un bracelet électronique chez soi, ça serait pas quelque chose de facile. Maintenant, imaginez que vous êtes dans un endroit où aucune porte ne s'ouvre sans que vous ayez attendu 2 minutes devant que quelqu'un vienne ouvrir parce que vous n'avez pas la clé, parce que vous pouvez aller qu'à certains endroits, parce que vous pouvez sortir de votre cellule qu'à certaines heures, etc. C'est un mode de vie au-delà des conditions matérielles, etc. C'est en soi un mode de vie qui est quand même très très particulier, qui est dur. Et pourtant, il reste beaucoup d'humanité en prison. Et je crois que c'est aussi ça que le documentaire s'attache à montrer. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Des hommes.
C'est ce que j'allais vous dire, justement, ça se retrouve jusque dans le titre Des hommes, en tout cas pour ce documentaire de Jean-Robert Vialet et Alice Audio, que vous pourrez voir donc le vendredi à 21h. On en a parlé aussi rapidement, peut-être un petit mot sur les séances des scolaires, où on retrouvera justement 2 films et 2 autres films. Pourquoi avoir choisi justement, en plus de ces séances grand public, de faire des séances scolaires ? Quel était l'intérêt ?
Alors l'idée, c'est que ces séances sont surtout à destination des collégiens et lycéens. Et qu'en fait, plutôt que de faire un cours sur la justice, on se dit qu'on peut aussi parfois... c'est une porte d'entrée, en tout cas, qui peut sembler plus accessible pour les scolaires. Mais ces films sont quand même accompagnés. Donc ils ne vont pas juste voir un film et ils ressortent en se posant plein de questions. Là, il y aura des personnes pour répondre à leurs questions, surtout des professionnels de la justice, pardon. Et cette année au programme, donc effectivement deux films de la programmation tout public qui sont La fille au bracelet et Made in Bangladesh, et également Nevada, un film sur la médiation animale en prison, la réinsertion, et Le labyrinthe du silence qui aborde le sujet de la mémoire nationale de la Seconde Guerre mondiale, sujet qui est d'ailleurs au programme en fait au programme d'histoire des lycéens. Donc ça permet aussi d'y aller dans le cadre des cours et d'avoir quelques billes en plus pour ce cours d'histoire.
Oui. Les séances scolaires, c'est un des fondements du Festival du film judiciaire. Hein. Depuis le début, on est vraiment sur ces deux jambes-là, le public et le scolaire, parce que c'est aussi un des objectifs du Conseil départemental d'accès au droit que je préside, de promouvoir justement la connaissance pour les jeunes citoyens que sont nos collégiens et nos lycéens, de découvrir, de se poser des questions sur leurs droits, l'exercice des droits, leurs droits à eux, mais aussi les droits des autres. Et c'est aussi l'occasion, à travers la programmation scolaire, d'avoir aussi une forme de continuité, notamment, effectivement, sur toutes les questions de mémoire et de la façon très différente, suivant les époques et suivant les pays, dont on peut être géré judiciairement. Le traitement de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. On a, depuis plusieurs années, un peu chaque année, un film qui s'y rapporte et qui permet d'explorer comme ça la façon dont ça s'est passé, qui est parfois très différente suivant, encore une fois, les lieux et les époques.
Donc ça permet, oui, là aussi, j'imagine, d'ouvrir un peu et d'aller plus loin que les simples cours pour les scolaires, mais aussi peut-être de casser des représentations qu'on pourrait avoir pour les scolaires, mais aussi pour nous tous, en tout cas, quand on ne connaît pas forcément le fonctionnement de la justice ou des branches très spécifiques, ou de sensibiliser. Comment est-ce que vous définiriez peut-être les objectifs ou les intérêts de ce festival ? C'est une grande question. Hein.
C'est d'ouvrir l'esprit des gens et, plus encore s'agissant des scolaires, de leur faire se poser des questions. Parce que je crois que toutes les démocraties ont besoin de citoyens qui se posent des questions et qui connaissent leurs droits. Et qui savent au moins qu'ils ont, enfin, même s'ils ne les connaissent pas précisément, qui sont ouverts à l'idée qu'ils ont des droits et qui peuvent aller rechercher des réponses aux questions qui se posent. Et c'est, le but, c'est vraiment de leur faire se poser des questions. Après, il y a aussi parfois un à côté utile, c'est que parfois, ça leur fait aussi réviser un peu des notions qu'on pensait acquises, etc. Juste en deux secondes, une anecdote. Il y a deux ans, on avait projeté un film sur le procès de Mandela. Et c'était Mandela et les autres, parce qu'il n'y avait pas que lui, ils étaient, je crois, 12 ou 13. C'est vrai qu'on n'avait pas réalisé, on a été extrêmement surpris dans les séances scolaires, parce qu'en fait, les 4e, 3e, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que l'apartheid, de ce qu'avait connu l'Afrique du Sud, etc. Ce qui, pour nous, à nos âges, était quelque chose qu'on avait de contemporain. Mais en réalité, effectivement, pour des collégiens ou lycéens, ils avaient une vague idée du nom de Mandela, et encore, c'est tout. Et on s'est rendu compte que voilà, c'est aussi pour ça que l'accompagnement des films est important, et c'est pour ça aussi que les cours d'histoire, c'est important, et qu'il faut poursuivre l'éducation de nos jeunes sur ces questions-là aussi.
L'éducation, donc oui, au niveau de l'histoire, au niveau des droits, au niveau de plein de choses, ça permet en tout cas de toucher un petit peu à tout ça. Peut-être juste une dernière question très pratique, comment est-ce qu'on fait si on est intéressé pour retrouver la programmation complète et puis prendre ses places ?
Alors, la programmation complète est disponible sur le site d'Atmosphère 53, donc www.atmosphère53.org. On peut dès à présent réserver ses places sur le site du Cinéville de Laval. Voilà, et je crois que c'est tout pour les scolaires. C'est déjà fait, puisque les collèges-lycées ont pu s'inscrire avant pour la programmation scolaire.
Et bien comme ça, au moins, on a tout noté, c'est pratique, le Cinéville de Laval pour les places, la programmation, le site d'Atmosphère 53.
Et le Trianon le samedi soir.
Et le Trianon évidemment, au Bourgneuf, la Forêt, aussi le samedi soir, et oui, puisque c'est le Festival du film judiciaire de Laval qui s'exporte aussi un petit peu dans Laval agglo, en tout cas, avec cette séance samedi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour présenter donc cette 12e édition du Festival du film judiciaire de Laval. Vous voulez rajouter,
Sabine? Non, je voulais juste dire, parce que s'il est possible, festival, c'est grâce à l'implication de toute la communauté judiciaire et juridique, le barreau, le tribunal, la fac de droit, mais aussi à la municipalité de Laval et à l'agglomération. Voilà, qui sont vraiment des partenaires à part entière, et l'éducation nationale aussi. C'est vraiment tout le maillage local, et notamment l'agglo et la ville de Laval qui permettent ce festival.
Qui participent aussi donc à l'élaboration. Enfin, en tout cas, à ce que ce festival soit possible et continue en tout cas aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour présenter ce festival qui commence jeudi, vendredi et samedi. J'espère que vous avez bien retenu les dates. On fait une petite pause en musique avec Smokey Joe and the Kid et on revient avec la chronique littéraire juste après.
The BBC would like to announce that the next scene is not considered suitable for family viewing. It contains scenes of violence involving people's heads and arms getting chopped off, their ears nailed to trees and their toenails pulled out in slow motion. There are also scenes of naked women with floppy breasts.
Zazu. Zazu. It's a man, then a woman, then a moment that just grabs you. At first you're feeling shy, slightly awkward, kind of bashful. You can't control the urge, it just feels like your body has to. Close contact, hold them tired by the waist. Two bodies, one motion, grand ride the bass. And the back is slipping, one thing that I'd like to say is that nobody can do the Zazu quite like the stage. This is my kind of rave, just bare happy people with smiles on their face. And there's a girl in here I like, I got my eyes on the waist. So we'll bust a groove until we see the light of the day. Glass of wine, flip the ladies, everything is dandy. Fuck it, buy the girl an ivory if you think she's banging. Just make sure you don't wake up regretting that you slammed it. Forget sin, this is now living the moment. Girl swinging the sexy waist, guys swinging the shoulders. Yeah, the party on for days, never thinking it's over. We'll see the sun and move again, we'll drink until we're sober. Hurrying so till it's over, best believe this when it's cold. No one knows how to do this as we do this, feel it in your bones. It gets your blood boiling, even in the freezing cold. It's the best feeling on the planet, people know. That's why it's been an honor standing here to hold my own. Been blessed with the beat sent to me by Smokey Joe. Now it seems the sound is deep, my how the scene is also grown. So we turn the volume up until the speakers overload. You've been a pleasure to rap to, now that I've explained. I'm glad you all know how to
death. There you go, ladies and gentlemen. You don't think the party stops there? Oh.
Now that's too sad.
C'est c'était Smokey Joe and the Kid Zazu que vous venez d'entendre dans l'agité du local sur l'autre radio. Et comme promis, évidemment, avant la pause, avant cette interruption, on va passer comme tous les lundis à notre chronique littéraire. Chronique délivrée aujourd'hui par Gabriel qui nous donne son premier coup de cœur jeunesse, en tout cas premier coup de cœur sur l'autre radio.
M. Lirangeau, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de Filles Garçons, de Hélène Drevert aux éditions Saltimbanque. C'est un album jeunesse qui parle d'égalité des sexes pour les enfants, sous la forme de grandes illustrations, au rythme d'une page, une image. Une page, une idée même. C'est un livre important qui montre aux enfants le pouvoir qu'ils ont, je dirais même la force, de rêver et de se voir vétérinaire, astronaute, président ou présidente. On évoque leurs passions, leurs émotions, et ce, sans distinction qu'on soit une fille ou un garçon. Apprivoiser comment on se sent dans son corps, parce qu'on peut se sentir différent de ce que notre image nous renvoie, aimer qui on veut, et se souvenir que c'est pas parce qu'on est copain qu'on est amoureux. Au fil des pages, on découvre des découpages qui nous font changer de perspective, des dessins, des pages qu'on déplie, et même un pop-up qui est une animation en relief. En d'autres termes, c'est un livre magnifique, si ce n'est magique dans les propos. Pour terminer, je dirais que c'est vraiment un super ouvrage sur l'acceptation et la tolérance qui peut faire prendre conscience et ouvrir le dialogue. Ça, c'est vraiment super important. Donc c'est à mettre dans toutes les mains de tous les enfants, environ pour 8-9 ans, à partir d'eux, parce que c'est pour bien plus aussi. C'est chez Saltimbanque. C'était Gabriel Butier de la librairie M. Lirangeau à Château-Gontier. Merci.
Retrouvez M. Lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, ou, et sur l'autre radio.
Évidemment, et sur l'autre radio. .fr, nouveau site d'ailleurs que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui. C'est toujours l'autreradio.fr, ça on vous a pas menti. En tout cas, nouveau site, nouveau design à retrouver. Et puis alors, bon, on a été un petit peu bavard, mais oui, c'était tellement intéressant ce festival du film judiciaire à Laval qu'on n'aura pas le temps en tout cas de diffuser ce feuilleton autour de la Compagnie des Deux Rives à Château-Gontier. Mais évidemment, soyez un petit peu patients, ça arrivera demain puisque c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque de Renault et à 21h de l'Aléatoire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.